soir. Discours du président Joseph Kabila à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Assemblée nationale, la plénière de mercredi dernier a jugé recevable le projet de loi portant modification de la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Quels sont les thèmes que vous propose Sylvie de la Presse de ce soir? Quoi qu'on fait, journaliste participe à ce débat. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bien le bonsoir Guy Maté.
Vidor Valekelaï, éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple. Bonsoir, bonsoir. Vidor Valekelaï.
Bonsoir éminent conseil Guy Maté.
Et Ali Boukassa, journaliste à la radio-télévision Soussante et mettant depuis mon édite au Kassai Oriental. Bonsoir Ali Boukassa.
Guy Maté, bonsoir. Bonsoir aux deux confrères.
Le chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies, les députés ont jugé recevable le projet de loi portant réforme de la CENI. On écoute cette revue de presse que nous propose Kéline Couté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le discours du président Joseph Kabila à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le potentiel rapporte qu'à l'ONU, Joseph Kabila affirme la responsabilité des Congolais de défendre la patrie face à une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur au Nord Kivu. Joseph Kabila hausse le ton, rapporte l'avenir. Dans son discours, il a indiqué que depuis le mois de mars 2012 en province du Nord Kivu, où les mots paix, stabilité, réconciliation, travail et dignité humaine commençaient à retrouver leurs lettres de noblesse, a commencé à devenir célèbre dans les antivaleurs par l'égoïsme de quelques individus. Ce que dit le président Kabila est exact, affirme la tempête de tropique. L'on se demande cependant pourquoi il met des gants pour le dire, pourquoi se réserve-t-il de citer nommément les forces négatives et les impénitents. Parlons du mini-sommet sur la RDC organisé à New York pour parler de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Forum des As aborde les retombées de cette rencontre et affirme que Paul Kagame est pris à son propre piège. Acculé par la plupart des participants pour son soutien au M23, du reste condamné, rapporte le journal, l'homme fort de Kigali n'a eu d'autre choix que de quitter la salle avant la fin des travaux. Quittant New York pour revenir en RDC, c'est direction Assemblée nationale où la plénière de mercredi dernier a jugé recevable le projet de loi portant modification de la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Au potentiel de titrer, les députés déclarent recevable la loi sur la restructuration de la CENI. Selon ce quotidien, dicté par l'expérience de 2011, les députés envisagent le renforcement du mécanisme de transparence électorale dans la restructuration de la CENI. Et parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine, il y a la suspension de l'aide de l'Union européenne au Rwanda. Human Rights Watch qui demande à la Banque mondiale de couper toute aide au Rwanda. Et enfin, la lettre du député Jean-Lucien Boussa au bureau de l'Assemblée nationale, lettre dans laquelle il demande l'interpellation du Premier ministre Matata Mponyo.
Merci Kéline Couté. Un commentaire, Benoît Cambéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, c'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est cette lettre du député Jean-Lucien Boussa portant interpellation du Premier ministre. Les députés MLC reprochent à Matata Mponyo certains griefs, notamment la gestion de la situation sécuritaire au Nord Kivu, les questions qui touchent au social des Congolais, les secteurs privés congolais qui est contrôlé totalement par des étrangers.
Je crois que c'est du droit et du devoir d'un député d'interpeller un membre de l'exécutif sur un certain nombre de faits, comme les faits que le député MLC Boussa a cité. Je crois qu'on ne devrait pas en faire un drame. C'est dans les attributions même d'un député d'interpeller un membre de l'exécutif et je crois que c'est dans la ligne normale des choses.
Vidor Balekelaï, éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple, Jean-Lucien Boussa reproche aussi au Premier ministre la gestion des marchés publics. Selon lui, pour obtenir un marché, ce n'est pas le plus compétitif qui l'emporte.
Bon, C'est tout comme mon éminent confrère Benoît Kambéré l'a dit, c'est vraiment le droit constitutionnel de chaque député d'exercer le contrôle sur ceux qui ont reçu la mission de gérer la res publica, et donc la démarche de l'honorable Jean-Lucien Boussa est constitutionnelle, c'est une démarche normale. C'est bien beau, vous savez, dans notre espace public d'accuser, mais encore faudra-t-il apporter des preuves en ce qui concerne la passation des marchés publics. Pour mémoire, je sais qu'il y a quelques temps, je crois l'année passée sous le gouvernement Mouzito, un certain nombre de textes réglementaires ont été vraiment approuvés par le gouvernement, mais je crois aussi bien par l'Assemblée nationale qui les a adoptés en définitive, pour réglementer la passation des marchés publics. Mais si il s'avère qu'il y a certaines personnes, certains compatriotes qui se caractérisent par cette vieille pratique des commissions et que l'honorable Jean-Lucien Boussa détient des preuves, c'est tout à fait normal qu'il apporte des preuves dans son argumentation devant la tribune de l'Assemblée nationale pour que pareille personne, dans le cadre de la lutte contre la corruption et même ce qui est convenu d'être appelé tolérance zéro, ces personnes-là, une fois les preuves établies, soient jugées et condamnées par les lois du pays.
Ali Boukassa, journaliste à la radio-télévision tout en thème étant depuis Mouléditou au Kassai oriental. L'autre grief, c'est le paiement de la dette publique qui, selon Jean-Lucien Boussa, est sélectif. Hein. Il se demande pourquoi tel peut être payé, tel autre n'est pas payé.
Bah, écoutez, comme les confrères ont eu à le dire bien avant moi, Dimaté, il faut d'abord signaler que c'est une démarche qui est folklorique, celle des routines en tant que député national, il ne pouvait que le faire. Et pour aller au-delà de cela, j'ai même appris qu'il y aurait une réunion de l'opposition, de toute l'opposition en vue, pour étoffer davantage cette lettre d'interpellation. On parle même, selon mes sources sur place à Kinshasa, qu'il y aurait même la question reliquaire de salaire des agents et fonctionnaires de l'État, dont le rapport n'est toujours pas fait ni au Conseil des ministres, encore moins au Parlement. En ce qui concerne la dette publique, là, je passe sous silence, j'ai pas trop de commentaires.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir, discours du président Joseph Kabila à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le chef de l'État congolais a affirmé que la situation dans l'Est de la RDC est inacceptable. Il demande des sanctions contre ceux qu'il qualifie d'éléments impénitents et leur soutien extérieur, tout en reconnaissant qu'il revient aux Congolais de défendre leur patrie. Sur le plan interne, le chef de l'État dit, je cite, « Nous demeurons déterminés à garantir la cohésion nationale et à assurer une égale protection à tous les citoyens congolais. » Fin de citation. On écoute le président Joseph Kabila dans cet extrait sélectionné par Jean-Pierre Ramazani de la radio de l'ONU à New York.
Au moment où je vous parle, monsieur le président, de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigé par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école et forcés de porter et d'utiliser les armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs propres frères et sœurs. Cette situation est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Nous attendons de la communauté des nations qu'à cet égard, elle prenne ses responsabilités et du Conseil de sécurité qu'il fasse respecter ses résolutions. C'est la condition de leur efficacité et de leur crédibilité.
Rencontre hier à New York entre le président Joseph Kabila de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Michael Sata de la Zambie était aussi présent, sans oublier les représentants de la CIRGL, de la SADC, de l'Union africaine, de l'Union européenne et aussi d'autres partenaires internationaux. Les participants à cette réunion sur la situation sécuritaire en RDC expriment leurs inquiétudes quant à la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Ils condamnent aussi toute forme de soutien extérieur au M23 et aux autres forces négatives opérant en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il s'engage à aider la RDC dans ses efforts de restaurer la paix et la sécurité dans sa partie est, tout en se penchant sur les propositions faites par les récents sommets de la CIRGL pour ramener la paix entre la RDC et les Rwandais ainsi que dans la sous-région des Grands Lacs. Après 3h30 des discussions à huis clos, Hervé Latsou, secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix, a fait le résumé de cette réunion devant la presse. Ses propos ont été recueillis par Jean-Pierre Ramazani de la Radio des Nations Unies à New York.
L'important maintenant, et toutes les délégations ont insisté là-dessus, c'est de se projeter vers l'avenir. De ce point de vue-là, il y a bien sûr des chantiers de fond, manifestés par l'engagement du gouvernement congolais à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de son pays, et donc pour cela à renforcer et accélérer la réforme du secteur de la sécurité. Mais il y a aussi les efforts des pays de la région, et d'abord de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui, vous le savez, dans le cadre de 3 sommets successifs, a formulé toute une série de propositions. Concrètement, le mécanisme conjoint de vérification qui est déjà en train de se déployer sur le terrain, et puis la force internationale neutre, un concept qui a besoin d'être encore approfondi. Les Nations Unies sont en appui pour aider à tous ces travaux. Nous avons des spécialistes que nous avons dépêchés sur le terrain. Voilà ce à quoi nous allons travailler avec maintenant ce soutien marqué que nous apportent tous les pays participants. Des participants qui ont exprimé leur entier soutien à tous les efforts de la MONUSCO pour mettre en œuvre son mandat dans l'est du Congo.
Benoît Kambere, une certaine opinion ne comprend pas que les chefs de l'État puissent prononcer un tel discours dans un tel cadre sans pour autant citer nommément les adversaires de la RDC. C'est vrai, cette opinion n'a pas tort, mais est-ce que ce ne sont pas des choses notoire, des choses déjà connues, et on sait que depuis plusieurs mois, les leitmotivs dans les discours politiques de la RDC, c'est les Rwandais qui agressent la RDC. Est-ce que là, on ne peut pas utiliser d'autres termes?
Non, tu as dit que c'est le leitmotiv de la classe politique congolaise, une certaine classe politique congolaise. Pour en revenir à ce qui a été dit, n'est-ce pas, ça fait la 4e réunion où on va de réunion en réunion sans aboutir à quelque chose de concret. Et dans aucune des déclarations, c'est seulement la rengaine, comme tu l'as dit, leitmotiv, la rengaine politique de certains politiques congolais qui parlent d'agression, agression, 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 mais aucune communauté internationale, aucune structure internationale n'a parlé d'agression. Et le chef de l'État s'est vraiment abstenu de parler de quoi que ce soit. C'est vrai, ça a étonné, ça a même irrité un certain nombre de gens. Parce que la classe politique, particulièrement la classe de la majorité présidentielle, c'était la rengaine pour avoir tout le peuple derrière. Mais jusque-là, on n'a jamais parlé d'agression parce que l'agression a une définition. L'agression, c'est quand une armée quitte un pays et agresse un autre pays, visiblement à partir de la frontière, et même que ce pays agressé déclare la guerre, ce qui n'a jamais été fait chez nous. Ce qui est parti de chez nous, c'est quoi? C'est le M23. Le M23 qui est parti du CNDP, les accords signés par le gouvernement congolais avec les gens du CNDP, et le M23 n'étant qu'une émanation du CNDP, c'est cela, mais on n'a jamais, je n'ai jamais entendu parler, et je lis très bien entre les lignes, parler d'agression, et ce n'est pas dans un forum de ce genre où on peut parler d'agression, où on n'a pas vu une armée qui a quitté un pays pour...
Vous vous rappelez que le gouvernement a toujours accusé le Rwanda d'agresser la RDC, et quand il s'agit de parler du M23, le gouvernement dit que c'est une fiction, c'est plutôt le Rwanda qui agresse la RDC.
Mais tout est parti de quoi? Du M23. Peut-être le M23 a des soutiens avérés à l'extérieur. Et ça, tout le monde le dit. Et là, le chef de l'État n'a même pas dit que ces éléments impénitents, comme il a dit, sont soutenus par le Rwanda. Il n'a même pas pu le dire. Et ça, c'est vrai, beaucoup de gens se posent des questions, mais il n'a même pas parlé. Les forces négatives, tout le monde sait que dans l'imaginaire de Rwanda, quand on parle de forces négatives, c'est les FDLR, c'est tous les Mai Mai et consorts qui sont cités depuis les accords de Lusaka. Mais là, on ne pose... Le M23 est une mutinerie de l'armée congolaise avérée, parce que Makenga est un officier des FARDC, parce que Ntaganda est un officier des FARDC, qui a même été protégé pas les hautes autorités de notre pays.
Merci.
Alors, on ne peut pas, aujourd'hui, transformer ces gens qui ont été nommés dans le cadre des FADC comme des étrangers pour que ce soit une agression extérieure. Non, c'est une mutinerie au sein de l'armée qui a, certes, comme toutes les mutineries, des soutiens extérieurs.
Ludo Barikelaï, les chefs de l'État ne devaient-ils pas profiter de cette occasion pour enfoncer les clous parce qu'il était devant les représentants de presque tous les pays du monde qui ont besoin d'avoir le maximum d'informations avant de prendre une position par rapport à cette question. Pourquoi il n'a pas profité de l'occasion pour citer nommément l'agresseur?
Merci bien de la question, éminent confrère Guimaté. Je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État, mais je crois qu'en tant que journaliste politique, parce que nous sommes ici en train de faire des analyses, je me dois de faire remarquer à mon confrère Benoît Cambéré, qui est avec moi, je crois qu'il a le discours du président de la République devant lui, que j'ai aussi ici, quand nous faisons l'herméneutique de ce discours en ce qui concerne la désignation des ennemis de la paix. Vous voyez que le président de la République parle des soutiens extérieurs. Il utilise le pluriel. C'est un aspect très important. Je crois peut-être les auditeurs qui n'ont pas eu peut-être accès à ce discours, ou même les téléspectateurs qui ne l'ont vu qu'à travers son discours devant la tribune des Nations Unies, devraient quand même avoir cet aspect à l'esprit. Pour dire que derrière ces forces ou cette force négative, parce que là il utilise les singuliers, il y a plusieurs soutiens. Et vous savez que pour le moment, la République démocratique du Congo privilégie l'option diplomatique. Quand bien même, initialement, on envisage la possibilité d'exploiter à la fois l'option diplomatique, politique et militaire, mais pour le moment, l'accent est mis principalement sur l'option diplomatique. Et que, quand bien même, les deux chefs d'État se sont retrouvés au niveau de New York, il y a des commissions mixtes qui sont en train de travailler pour pouvoir arriver à une solution durable, une solution pacifique en ce qui concerne la crise qui sévit dans la province du Nord Kivu. Et donc, dans la pratique diplomatique, quand on sait qu'on est en position de force, comme le cas d'espèce, même si, pour mon confrère, il y a eu 4 réunions de suite qui n'ont rien produit de concret, c'est un point de vue que je ne partage pas, parce qu'au moins, sur le plan diplomatique, on a enregistré beaucoup d'avancées, et même le fait que M. Paul Kagame ait quitté la salle de la réunion en présence de Ban Ki-moon, je crois que par ricochet, c'est quelque chose qui profite à la République démocratique du Congo, parce que là, il a quand même cédé à ses impulsions, à ses instincts personnels, en donnant une mauvaise image, non seulement de lui-même en tant qu'homme d'État, mais également de son pays, et ceci profite à la République démocratique du Congo. Et je disais que dans la pratique diplomatique, quand on sait qu'on est en train de gagner sur ce front-là, il y a un langage qu'il faut tenir quand on se retrouve dans des forums comme ceux-là.
Donc, alors, je voudrais terminer en disant... Partagez les points de vue de ces députés de la majorité qui pensent que, étant donné les efforts diplomatiques déployés par la RDC, le chef de l'État ne pouvait pas se permettre de tenir un discours peu diplomatique.
Moi, je crois que dans l'imaginaire de beaucoup de Congolais, avec aussi ces jeux de manipulation politicienne, les gens croient que le chef de l'État ferait le jeu de l'ennemi en ne le désignant pas. Mais je crois, comme je le disais tout à l'heure, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis au niveau des commissions mixtes. Quand on connaît déjà l'adversaire, tous les pays qui ont été invités aux Nations Unies, au moins en ce qui concerne le travail de nos ambassades, disposent des éléments de preuve qui démontrent qu'effectivement, c'est le Rwanda qui est en train de soutenir donc le M23. Et alors, je ne vois pas pourquoi le chef de l'État, qui au cours d'une interview ici à Kinshasa, avait dit que ce n'est un secret de positionnel et que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, je ne vois pas pourquoi il reviendrait à ceci. Et ça ne changerait rien du tout parce que c'est connu que c'est le Rwanda. Alors je voudrais, avant de terminer, souligner ceci. Parce que le M23 bénéficie du soutien du Rwanda et le chef de l'État dans son discours utilise le pluriel, ceci suppose qu'au-delà du Rwanda, il peut y avoir d'autres forces qui sont en train de soutenir ce pays pour déstabiliser la République démocratique du Congo, notamment ces multinationales qu'on connaît depuis des années qui apportent de l'aide financière à ce mouvement. Merci. Alors, parce que ces multinationales appartiennent à des États sur qui nous comptons pour gagner la bataille diplomatique, je crois qu'il est aussi de la bonne tactique de ne pas désigner nommément tous ces partenaires des forces du mal qui déstabilisent la République démocratique du Congo. C'est un point de vue.
Merci. Alain Bougassa, c'est vrai qu'il y a des efforts diplomatiques qui sont déployés, mais il y a un acteur politique congolais qui s'est demandé comment l'opinion internationale pourra-t-elle prendre la mesure de la chose quand la victime refuse de dénoncer les bourreaux.
Écoutez, Guy Maté, d'abord, je suis D'accord, des concerts avec les deux précédents confrères avec qui nous sommes dans cette tribune. Joseph Kabila Kabangé, du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, un discours qui fait simplement une photo de la situation à l'Est, sans accuser nommément celui que tout le monde chante et qui fait même d'ailleurs le refrain de beaucoup de chansons politiques aujourd'hui. J'ai comme impression que d'abord c'est un discours qui a été écrit sur place à New York. Parce que si c'était écrit à Kinshasa, le mot Rwanda sortirait en caractère. Je ne donne pas tort à Joseph Kabila. Parce que il a trouvé l'environnement qui ne permettait pas que l'on nomme l'ennemi, l'adversaire, celui qui serait derrière les M23. Ce n'est pas une erreur en termes de diplomatie. C'est plutôt une souplesse de langage. C'est une souplesse diplomatique pour un État qui n'a pas de grands amis, qui n'a pas d'amis dans le cercle des hommes puissants, des puissances étrangères aujourd'hui. C'est un langage d'appel au secours. Quand on appelle au secours et que l'on sait que les voisins environnementaux ne sont pas très confiants par rapport à vous, alors il y a vraiment du bénéfice à ne pas nommer directement l'adversaire. Il y a aussi, dans tout ce que le président Kabila a pu faire à New York, dit Maté, ce qui m'a beaucoup le plus arrangé, c'est ce contact qu'il a eu avec Mme Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine. Parce que pour moi, je trouve que cette situation de l'Est, c'est beaucoup plus un combat d'économie et c'est beaucoup plus une réalisation de grandes puissances. Et quand je parle des grandes puissances, moi j'ai envie de parler ici des États-Unis d'Amérique. Aussi longtemps que nous serons très loin des États-Unis d'Amérique, il y aura toujours du feu du côté Est. Et c'est ici, encore une fois, même certaines gens se posent cette question. On sent beaucoup la Chine en Syrie, mais pourquoi au Congo ? Alors qu'elle a un veto. Je ne suis pas en train de poser des questions dans cette émission, puisque c'est vous qui me posez, mais c'est parmi des interrogations que nous, Congolais, nous devons. Le président Kabila dit la question de l'Est revient, sa solution revient aux Congolais. Et là, il rencontre Lumumba Patrice Emery, le premier premier ministre de notre pays, qui disait dans la lettre écrite à ses enfants que je vois l'avenir du Congo meilleur. Mais cette qualité, cette bonté dépend de l'organisation de vous, mes enfants, merci, et de tout un chacun des Congolais. Aujourd'hui, je suis vu sur la Voix de l'Amérique ce matin, l'on relayait l'opinion de Kagame, donc de Kigali, qui disait le problème au Congo est congolo-congolais. Si l'on n'exploite pas les vrais problèmes, on ne sortira pas la partie est du gouffre. C'est là où on doit nous remettre en cause.
Merci.
C'est là où on doit remettre notre politique étrangère en cause. C'est là où on doit nous permettre de redéfinir nos différentes pistes de solutions.
Merci Ali Bokassa. Merci. Maintenant, Kamere, évoquons maintenant la réunion qui s'est tenue hier à New York entre les deux chefs d'État, les chefs de l'État congolais Joseph Kabila et le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Nous apprenons que le président rwandais a quitté la salle avant la fin de la réunion parce qu'il a refusé de signer le communiqué final dans lequel on lui demandait de condamner le M23 et de cesser tout soutien à ce mouvement. Comment vous analysez cette attitude du président rwandais?
Je note qu'il n'y a pas eu de communiqué final. Ce qui revient à dire que, comme toutes les autres rencontres, n'en déplaise à mon confrère Ludor, n'est-ce pas, c'est des couacs.
Non, en fait, il n'y a pas eu de communiqué final parce qu'une des parties a refusé de signer ce communiqué.
Justement, on ne peut pas parler de victoire diplomatique comme on l'entend ici dans le gotha politique de l'AMP, des victoires partout. Il suffit que quelqu'un suspende une aide à gauche sans que le Congo n'y soit pour quelque chose. On parle de victoire, on parle de victoire, de victoire. Même la signature de l'accord du M23, on le brandit comme un trophée.
Oui, mais le président Kagame quitte la salle avant la fin de la réunion. Ben, comment on peut expliquer
C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses qui ont été dites à cette réunion. Et ça, on ne peut pas appeler ça une victoire. Et ce que moi je me dis, et ça, le chef de l'État l'a dit. Il faut que nous soyons conscients, nous, Congolais, que tant que nous-mêmes, on ne va pas défendre notre parti,
assurer l'ordre public, la sécurité de l'ensemble de notre territoire, qui sont les devoirs régaliens, nous devons assumer cette responsabilité et entendons consacrer toutes nos ressources humaines, matérielles et financières, quitte à sacrifier nos ambitions légitimes pour l'émergence d'un Congo. C'est ça le vrai combat. Plutôt que d'aller pleurnicher à l'extérieur, condamner tel, condamner tel, condamner tel, c'est nous qui devons, nous, Congolais, unis bien sûr, parce que malheureusement, on y va en ordre dispersé pour telle ou telle raison, on y va en se mettant les pots de banane sur la route. C'est à nous, Congolais, c'est à l'armée congolaise qui a le devoir régalien de défendre le territoire du Congo. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. J'ai déjà parlé devant ce micro de l'Éthiopie, qui ne se plaint jamais, qui réagit tout simplement quand la Somalie vient, quand l'Érythrée vient, réagit. Ils sont entrés de combien de kilomètres? 50. Entrent dans 100 kilomètres. C'est ça qu'il nous faut et pas voir des victoires diplomatiques, même des fictions de victoires diplomatiques partout, alors que la situation s'enlise depuis le mois de mars. On n'a pas récupéré une seule localité des 600 hommes qui sont en train de traquer l'armée congolaise, malgré les soutiens extérieurs qu'elle a.
Je voudrais par rapport à ça, je voudrais dire à mon éminent confrère Benoît Kambéré qu'il y a un adage qui dit « qui se sent morveux se mouche ». Au cours d'une rencontre internationale d'une si grande importance, présidée par le secrétaire général des Nations Unies, c'est lui qui a la responsabilité de la quête et requête de la paix à travers le monde. Un chef de l'État impliqué dans un conflit se retire de la réunion et laisse les autres. Et mon ami me dit qu'il est sorti parce qu'il n'était pas d'accord. Je voudrais procéder par une simple mathématique footballistique. Lorsqu'il y a deux équipes de football qui doivent s'affronter et à quelques minutes du match, une équipe adverse s'absente. On parle d'une victoire par forfait. Et même quand on fait de la mathématique juridique, on est en procès. Deux parties sont en présence. Une partie s'absente. On condamne cette partie-là par défaut.
Si elle est citée.
C'est une victoire diplomatique de la République démocratique du Congo.
Nous sommes sur le terrain politique où les rapports de force comptent.
Oui, les rapports de force comptent. Je crois que tous les esprits avertis sur la scène internationale, qui ont regardé, qui ont observé le comportement du président rwandais, doivent tirer des conséquences sur la responsabilité qui incombe à ce parti, à ce pays, dans ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et par rapport à la RDC, c'est un gain en termes de hauteur, parce que le président Kabila est resté jusqu'à la fin, même si on n'a pas signé le communiqué, on sait pourquoi le Rwandais n'a pas signé le communiqué final. Et donc, on peut parler, en tout cas, sans la peur d'être contredit, d'une victoire diplomatique, mais même si ceci ne plaît pas à notre ami.
Au vu de l'attitude affichée par le président Kagame, et on est tenté de croire qu'il y a que la RDC qui continue à se fier à la diplomatie.
Non, mais c'est ça, il faut épuiser toutes les pistes. C'est ça aussi la diplomatie. Il faut épuiser toutes les pistes, comme on a le gouvernement congolais a levé trois options en ce qui concerne la résolution de la question de l'Est. Si la piste diplomatique échoue, en ce moment-là, on peut envisager une autre piste. Mais à l'étape où nous en sommes, avec tout ce qu'on est en train de récolter comme victoire, moi je crois qu'il faut encore continuer, parce qu'il faut privilégier la paix. Il n'y a personne qui peut vouloir qu'il y ait la guerre pour le moment à l'Est de la République démocratique du Congo, parce que ce sont les populations civiles qui vont en pâtir. Et la guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. Moi je ne peux pas conseiller au gouvernement congolais d'aller directement sur l'option militaire, quand bien même on n'a pas encore épuisé toutes les pistes en ce qui concerne l'option diplomatique.
Ali Bokassa, le chef de l'État maintient sa logique. Hein. Il a parlé de la solution politique, solution militaire ou diplomatique, ou les trois à la fois. Et vu l'évolution de la situation sur terrain, à votre avis, quelle est la piste qui peut être exploitée et qui pourrait permettre à la RDC de déboucher sur une solution adéquate et durable?
Beaucoup plus celle diplomatique et à tous les niveaux. Niveau local, niveau national, niveau international. J'ai eu à souligner ici il y a peu le fait que le président Kabila se soit entretenu avec Madame Hillary Clinton. C'est déjà une serrure, la clé qui trouve l'une des bonnes serrures. Je suis confiant que là, le président Kabila a exploité la bonne piste. Parce que quand on va du côté guerre, l'option militaire, ce sont des Congolais qui vont faire les frais. Quand on va sur le plan politique, ça ne promet pas tellement. Mais beaucoup plus diplomatique, si on pousse loin à tous les niveaux, en terminant toute la loi qui s'offre, moi je crois que ça pourra bien aller. Et là, c'est un chapeau que l'on doit au président Kabila.
Merci.
Autre chose pour revenir, s'il vous plaît, je vais terminer par là dans 30 secondes, pour rencontrer Willy Dor. Il dit que le fait que Kagame soit sorti, ça, c'est une mauvaise image et ça profiterait au Congo. Je ne suis pas pressé de le croire. Je voudrais bien que l'on voie la suite des choses. Quelles sanctions on va réserver à Kagame? Parce que, dit Maté, lorsque vous croisez un petit garçon sur la rue et qu'il vous faisait du mal, qu'il vous manquait, dites-vous bien que derrière lui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et pour derrière le Rwanda, il doit y avoir quelqu'un, parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre facilement que pour le président Kagame manque du respect, d'estime, sinon, au secrétaire général des Nations Unies, la première organisation internationale.
Merci, Benoît Kamere. Ali Bukassa parle du niveau local. Là, c'est les volets internes de la situation qu'il évoque.
Absolument.
Et dans son discours, le chef de l'État avait dit « Nous demeurons déterminés à garantir la cohésion nationale et à assurer une égale protection à tous les citoyens congolais. »
Absolument. Et ça, c'est très important. Et c'est pour moi le plus important dans le discours protocolaire. Parce qu'il avait un thème, justement, règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques. C'est le plus important passage du discours du chef de l'État. Parce qu'il n'est pas normal que maintenant, quand on a besoin de la cohésion interne, on est en train. Aujourd'hui, à titre d'exemple, notre confrère Sosten Kambidi de Kananga est arrêté ici à l'ANR, à Kinshasa, tout simplement parce qu'il a repris un son qui est passé sur Radio Okapi. C'était l'interview de John Chibangu là-bas. Il le passe à sa radio, on vient, on le traque, on l'arrête, on l'amène à Kinshasa, Manu Militari. C'est ça, avoir une cohésion nationale, ça devrait commencer par la confiance en nous et pas traquer les compatriotes pour des brutouilles. Alors qu'on sait où on devait aller pour faire la brutalité pour que ça arrive à quelque chose. Mais maintenant, sur le plan interne, c'est toujours comme ça, malheureusement. On a vu Bundu Dia Congo, avec quelle énergie on a maté Bundu Dia Congo. On devrait, à mon sens, avoir la même énergie pour mater les forces négatives, telles qu'on le dit, et pas s'attaquer à des journalistes parce qu'il a passé un son d'un John Chibangu comme s'il était un pestiféré.
Oui, Ludor Balekelaï, l'opposition dit que rien n'est fait pour façonner cette cohésion nationale.
Bon, merci bien. Avant d'arriver là, avec votre permission, je voudrais quand même recadrer quelque chose par rapport à l'intervention de mon éminent confrère Ali Bukassa, qui ne semble pas partager mon point de vue en ce qui concerne le gain ou les bénéfices diplomatiques que la RDC aurait tiré donc de la sortie de la salle du président Kagame. C'est son point de vue que je respecte, mais je crois qu'il m'a rejoint quelque part quand il a dit que quand vous voyez quelqu'un vous manquez du respect, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. C'est pour cela que je disais que dans le discours du chef de l'État, il utilise des soutiens extérieurs au pluriel pour dire que au-delà du Rwanda, il y a une main noire qui se cache là-bas.
Oui, rien n'est fait pour façonner la cohésion nationale selon l'opposition.
Rien n'est fait, je ne saurais pas le dire, mais à qui incombe la faute? En ce qui me concerne, j'ai fait une monographie sur la problématique de la réconciliation nationale. J'attribuais l'échec de la réconciliation nationale, de la cohésion nationale, à la triste défunte commission chargée de la réconciliation issue du dialogue intercongolais, qui avait des missions lui dévolues par l'accord de Sun City, mais qui n'avait pas fait son travail. Et donc on ne peut pas aujourd'hui faire un tout petit peu de coq à l'âne en évoquant un cas d'arrestation d'un confrère par rapport à ce qui se passe à l'Est. Je voudrais par solidarité dire que je condamne s'il a été arrêté, mais nous ne pouvons pas oublier aussi que nous avons une loi qui nous gère et qui nous impose un certain comportement en temps de guerre. Ça, je ne peux pas entrer dans les termes parce que je ne maîtrise pas tous les termes de référence de ce procès, mais on ne peut pas dire qu'au lieu d'aller combattre le M23, il faut arrêter un journaliste quand, par exemple, il est avéré qu'il peut avoir violé les lois du pays, mais également sa propre loi. C'est un confrère, nous avons de la solidarité, mais par rapport au sujet abordé, moi je trouve que c'était une digression.
Il faut rappeler qu'il y a les principes de la présomption d'innocence.
Voilà, c'est pour cela que j'ai dit que nous devons laisser la justice faire son travail.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Assemblée nationale, la plénière de mercredi dernier, a jugé recevable le projet de loi portant modification de la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Ces projets, affirment certains députés, portent des innovations visant l'amélioration du fonctionnement de la CENI. D'autres, par contre, pensent que ces projets viennent renforcer le pouvoir de la CENI, pourtant décrié. Pour rappel, deux textes de loi sur cette matière avaient été déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la proposition du député Emery Okundji et du projet du gouvernement. Après débat mercredi dernier à la plénière de l'Assemblée nationale, c'est le projet du gouvernement qui a été retenu. Pourquoi avoir retenu ce projet à la place du texte d'Emery Okundji? Quelles sont les innovations qu'apporte le projet du gouvernement? Tentative des réponses dans ces reportages de Mimi Ngumba Mulongo.
Prenant la parole hier pour trancher après un long débat, le président de l'Assemblée nationale a fait comprendre que seul le texte du gouvernement était en état d'être traité par la plénière. Aubin Minako a expliqué que le gouvernement a déposé son projet dans l'urgence. Dans ce cas, a-t-il rappelé, la Constitution autorise les députés à l'examiner sans l'envoyer au bureau d'études de l'Assemblée. C'est ce qui justifie que ce texte soit retenu alors que celui du député Okundji se trouve encore au bureau d'études. Emery Okundji avait plutôt évoquer la disposition du règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit que lorsqu'une même matière fait l'objet de plusieurs initiatives, les bureaux donnent priorité soit au projet déposé plus tôt, soit au projet jugé de meilleure qualité. Le texte du gouvernement qui sera examiné finalement propose que les bureaux de la CENI passent de 7 à 11 membres. Exclus dans sa formule précédente, les membres de la société civile devraient faire partie de la nouvelle CENI. Le projet du gouvernement prévoit également le renforcement du secrétariat exécutif de la CENI. La proposition d'Emery Okundji proposait d'élargir les bureaux à 9 membres. Le même texte prévoyait la mise en place de commissions et d'une plénière. Cette proposition limitait les attributions du président de la CENI et le soumettait au contrôle de la plénière.
Ali Boukassa, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision tout entier, mettant depuis mon édito Kassai oriental. Comment analysez-vous cette décision de l'Assemblée nationale?
Dis-moi, franchement, ça ne me surprend pas. Parce que dès lors que j'avais compris qu'il y avait une autre loi en projet qui venait et que l'opposition avait, par le député Emery Okundji avait déjà fait le pas, je ne m'attendais pas à grand-chose. Cette situation ne me surprend pas. Il faut dire à ce stade des choses que la finalité doit être la réponse aux questions qui ont noirci les élections de novembre dernier. Ici, je crois que nous sommes en train d'aller dans un sens... L'Assemblée, la chambre basse du Parlement commence à devenir une espèce d'église du réveil où l'on dit qu'amen, amen, 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 amen. J'ai suivi les innovations de part et d'autre. Le projet du gouvernement va jusqu'à 11 membres, alors que la proposition d'Emery Okundji va jusqu'à 9. À ce niveau des choses, c'est le gouvernement qui l'emporte. Mais il ne faut pas voir beaucoup plus sur cela. Parce que nous, l'opinion, quand elle réclamait la refonte de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ce n'était pas au niveau formel, mais plutôt fonctionnel. Aussi longtemps que le bureau n'aura pas de contrôle, n'aura pas un autre organe qui le contrôle, on aura juste multiplié les verres de sucre alors qu'on s'attendait à multiplier les verres d'eau pour diminuer la teneur. Moi, je crois que j'ai suivi les uns et les autres, c'est-à-dire le camp de la majorité et puis celui de l'opposition. Il y a une certaine ouverture, c'est que le débat est encore pendant. On pourra peut-être faire la fusion, prendre ce qui est bon dans la proposition du député Emery, et ajouter à ce que contient déjà le projet du gouvernement pour que l'on fasse quelque chose d'effort, quelque chose qui puisse apaiser les prochaines élections en
Merci.
République démocratique du Congo.
Merci. Benoît Kambere, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Et le député Okundji, auteur de la proposition des lois qui a été rejetée, affirme qu'il y a eu un passage en force. Mais au terme de l'article 125 de la Constitution, les projets du gouvernement bénéficient de l'urgence. Ceci n'explique pas les choix de l'Assemblée, de la plénière de l'Assemblée nationale.
Non, pas totalement. Parce que la proposition de loi du député Emery Okundji a été déposée depuis le 8 juin. Mmh. Et l'urgence vient d'où? Là, ici, l'urgence vient du fait que on a promis qu'au sommet de la francophonie, on aurait à mettre de l'ordre dans la CENI.
Arrêtons quand même. C'est cette cohésion nationale dont on parle ici. On sait comment est composée l'Assemblée nationale. On sait, mon confrère Ali tout à l'heure l'a traité comme il a traité, je le rejoins dans ces termes-là, mais pourquoi on n'aurait pas pris le projet qui a été déposé depuis le 8 juin, avant qu'on ne clôture la session qui était finie, au bureau d'études et qui n'est pas encore revenu, le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas ne pas remettre celui-là pour avoir la cohésion nationale et amener les autres inputs qui doivent venir. On sait comment l'Assemblée nationale est composée. On ne va pas dire que c'est comme l'a dit mon confrère, c'est une église de réveil. Ils peuvent amener tout ce qu'on veut, ça va passer parce qu'on sait comment elle est composée. Et de la part du bureau, ce n'est pas mettre la cohésion nationale, ce n'est pas travailler pour l'union des Congolais. L'union des Congolais, ce n'est pas seulement quand on a des difficultés, on voudrait que tout le monde vienne, mais quand le pays se porte est normal, c'est à ce moment-là qu'on doit avoir la cohésion nationale. On a vu la désignation des membres du bureau. Encore une fois, la même AMP a imposé des gens, alors que les textes disent que c'est l'opposition qui doit donner les gens. Et tout ça, on croit qu'on est en train de travailler pour la cohésion nationale. Non, la cohésion nationale, c'est pas parce qu'il y a la guerre à l'Est. La cohésion nationale doit être vécue dans les faits et gestes de tous les jours.
Merci.
Ce n'est pas ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale.
Guido Valekela, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Les Pouvoirs du Peuple. Comment vous analysez ces débats? Ali Boukassa a dit que la finalité devrait être la réponse aux questions qui ont noirci les élections de novembre dernier.
Merci, je suis parfaitement d'accord avec Ali Boukassa en ce qui concerne la finalité même de la réforme de la CENI, donc la correction des irrégularités qui ont entaché les élections. Je suis parfaitement d'accord avec lui, mais je voudrais pouvoir dire à mon confrère Ali Boukassa que l'Assemblée nationale ne peut pas être comparée à une église de réveil. Je voudrais pouvoir dire aussi à mon éminent confrère Benoît Kambéré sur ce plateau, dans ce studio avec moi, que l'Assemblée nationale ne peut pas être comparée à une église de réveil. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Je voudrais informer mes estimés confrères que dans la pratique, dans la praxis démocratique, il y a l'opposition qui s'oppose et la majorité qui décide. On ne peut pas concevoir qu'une décision soit perçue comme meilleure, tout simplement parce que l'initiative revient à l'opposition. Ce sont les députés, c'est nous-mêmes, le peuple congolais, qui avons voulu qu'il y ait instauration de la démocratie dans notre pays.
En fait, c'est pas que l'opposition estime que le projet de loi du gouvernement ne fait que renforcer davantage le pouvoir de l'actuel bureau de la CENI.
Ils ont eu un débat démocratique suivi, retransmis à travers les antennes de la télévision nationale. Vous avez compris que leur argumentaire n'a pas pu tenir debout, d'abord du point de vue de la forme, mais aussi du point de vue du fond par rapport à la constitutionnalité ou non de la proposition de loi émanant des députés de l'opposition. Ce n'est pas parce que la proposition de loi a été rejetée qu'on peut d'emblée déduire qu'elle a été rejetée parce que émanant d'un député de l'opposition. Non, le problème c'est le fond et la forme.
Quelles sont les innovations contenues dans ces projets du gouvernement
qui peut apporter un changement? Merci de tout cœur. Là, je vais vraiment m'exprimer en homme libre, indépendant, parce que je considère que tout ce qui est fait en ce qui concerne la réforme de la CENI, c'est une distraction, c'est une perte de temps pour rien, tout simplement parce que la communauté internationale a fait des pressions. Si aujourd'hui, on sent qu'il y a la nécessité de réformer la CENI, ou soit de faire partir les membres du bureau qui sont là-bas, qu'on accepte aussi avec courage d'annuler tous les résultats des élections qui ont eu lieu et qu'on recommence les élections à zéro. Ce n'est pas parce que la communauté internationale, parce que les partenaires ont fait pression, qu'on doit faire partir Ngoï Mulunda et qu'on sort estimant qu'ils ont mal fait. Mais on a fait partir mal de la même manière. Même celui qu'on va mettre, il sera accusé demain par l'opposition de faire le jeu du pouvoir, il sera accusé par le pouvoir de faire le jeu de l'opposition, et ça sera quelque chose de cyclique qui ne profite pas à la population. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je trouve inopportune cette démarche qui vise à réformer la Commission électorale nationale indépendante ou même encore à faire partir les membres de l'actuel bureau si ceci était le cas. Donc voilà mon point de vue en ce qui concerne cette démarche, et aussi bien de l'opposition que du gouvernement en ce qui concerne la CENI.
C'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique et Kelly Koute à la réalisation sous la supervision de Pele Kipela Mondo. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Pratique.